VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. On commence par les États-Unis avec le discours annuel du président américain sur l'état de l'Union. Donald Trump a vanté ses promesses tenues et une économie américaine à la santé rugissante devant le Congrès américain au très grand complet lors d'un discours qui se veut très très complet lui-même à 9 mois de l'élection présidentielle. Ici, le président américain donne un aperçu des challenges relevés.
Il y a 3 années, nous avons lancé le grand renouveau pour l'Amérique. Aujourd'hui, je suis devant vous pour partager avec vous les résultats extraordinaires que nous avons accomplis. Nous avons davantage d'emplois, les revenus augmentent, la pauvreté se réduit, la criminalité chute, il y a davantage de confiance et notre pays se porte mieux que jamais et est à nouveau respecté par le reste du monde. Les ennemis de l'Amérique nous fuient. La fortune de l'Amérique se porte mieux. Notre avenir est brillantissime.
Le président Donald Trump, hier lors de son discours sur l'état de l'Union, Donald Trump traverse une bonne période. Son acquittement quasi certain ce soir par le Sénat marquera l'épilogue d'une procédure de destitution de 5 mois qui n'a pas fait vaciller une base électorale toujours fidèle. Pour le professeur Leonard Washington de l'Université de Princeton, ce fut un véritable discours de campagne.
Il s'est attribué tous les succès possibles, économiques, technologiques, également dans les affaires étrangères. Ce n'est pas du tout surprenant, c'est vraiment un discours de campagne. Mais ce que je dois souligner, c'est vraiment le fait qu'il persiste dans la démagogie en ce qui concerne l'immigration. Donc, en fait, la violence dans les écoles, les massacres dans les écoles, et puis la montée de l'antisémitisme, la violence raciale, tout ce qui se passe sous son règne, on n'en parle pas, mais ce dont on parle plutôt, c'est quelques cas de meurtre et de crimes commis par des immigrants illégaux. Voilà, donc c'est vraiment en temps, quoi. De l'autre côté, j'ai trouvé vraiment amusant le fait que les problèmes de l'éducation dans le pays se réduisent tout simplement à envoyer quelques enfants dans des écoles de leur choix. Comme si, en fait, le problème n'est pas beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Voilà. Et puis, c'est intéressant surtout que l'appel à la religion, comme si, finalement, les démocrates sont anti-religieux, et puis les valeurs religieuses fondamentales des États-Unis, c'est lui qui les protège, c'est lui qui protège le droit des gens à prier dans les écoles, plutôt que les démocraties qui opposent, l'avortement, tout le reste. Quoi. Vraiment, c'est un discours de campagne, et je m'attendais pas à mieux, ça c'est clair, mais dans le même temps, ça reste quand même préoccupant, quoi.
Le professeur Washington de l'Université de Princeton à New Jersey. Le président guinéen Alpha Condé a fixé au 1er mars la tenue d'un référendum constitutionnel malgré l'intense contestation contre ce que l'opposition dénonce comme une manœuvre de sa part pour briguer un troisième mandat fin 2020. Le référendum sera donc couplé aux législatives prévues le 16 février et dont le report au 1er mars avait déjà été annoncé lundi. L'annonce de la date du référendum attendu depuis des semaines risque d'accroître les tensions déjà vives en Guinée. Le pays est le théâtre depuis mi-octobre de protestations contre le projet prêté de longue date au président élu en 2010 et réélu en 2015 de chercher à se succéder fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels.
Nos infos sur voaafrique.com.
Centrafrique, c'est demain l'anniversaire de l'accord de paix signé le 6 février entre le gouvernement et 14 groupes armés. Mais si l'accord de paix tient toujours, il n'a jamais été aussi fragile à 10 mois d'une présidentielle à risque. Idrissa Seydou Dia.
Si les violences ont baissé au cours des premiers mois de 2019, depuis septembre, elles se sont multipliées dans le nord-est, fief des rébellions successives contre le pouvoir de Bangui. Dressant un constat d'échec de la mise en œuvre de l'accord début janvier, les leaders rebelles ont rappelé leurs revendications. Libération de prisonniers, intégration de leurs combattants dans l'armée, autonomie accrue des régions délaissées par le pouvoir central. centrale. Les groupes armés rechignent à désarmer et leurs combattants continuent de perpétrer des exactions. L'impunité demeure. Quelques progrès ont pourtant été enregistrés depuis un an, principalement dans le nord-ouest où les combattants de plusieurs groupes armés de moindre envergure ont pris part au processus de désarmement et de démobilisation censé assurer leur retour à la vie civile. En parallèle, l'État centrafricain a amorcé son difficile retour. Le nombre de fonctionnaires sur le territoire a quasiment triplé depuis 2013 et les unités de l'armée centrafricaine formées par l'Union européenne et la Russie se sont redéployées dans plusieurs localités. Entre les mouvements armés et le pouvoir de Bangui, le ton s'est quand même durci et face au dialogue de sourds, les observateurs entrevoient une seule issue de secours. C'est l'élection présidentielle de décembre 2020.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé mardi un décret graciant près de 3500 personnes condamnées, une mesure de clémence qui ne concerne cependant pas les détenus liés au mouvement de contestation populaire anti-régime dont la majorité sont en attente de jugement. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le chef de l'État a décidé de mesures de grâce au profit d'un premier groupe de 3471 détenus ou non détenus, condamnés définitivement et dont il ne reste de leur peine que 6 mois ou moins à purger, a précisé la présidence dans un communiqué cité par l'agence officielle APS. Ce premier groupe sera suivi par un deuxième qui englobera des détenus condamnés définitivement et dont il ne reste de leur peine que 12 mois ou moins à purger selon le communiqué. Toutefois, le décret ne concerne pas les personnes incarcérées pour des faits liés au Hirak, le mouvement de contestation qui ébranle le pouvoir depuis bientôt un an. La plupart n'ont pas encore été jugés, a expliqué à l'AFP Kassi Tansaout, coordinateur du Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Le CNLD, une association de soutien, a recensé 142 manifestants actuellement en détention provisoire et 1300 autres qui font l'objet de poursuites judiciaires pour des faits liés à la campagne du scrutin présidentiel. Selon ce dernier, plus de 200 opposants au total ont été remis en liberté, la plupart depuis le début de l'année. Le décret présidentiel exclut notamment les prisonniers condamnés pour corruption, trafic de drogue ou terrorisme, selon des médias locaux.
Le chef de l'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, a salué mardi à Lilongwe devant quelques 10 000 de ses partisans la victoire de la démocratie après la décision historique de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de 2019 remportée indûment par le président sortant Peter Mutharika. Le porte-parole du président Mutharika a annoncé que le chef de l'État sortant allait faire appel de l'annulation de sa victoire. Le point avec Anne Alberson.
Devant la foule de ses partisans, l'opposant Lazarus Chakwera, arrivé deuxième de l'élection présidentielle, a salué la décision d'annulation. Ces élections ont été entachées de tellement d'irrégularités et maintenant la justice a prévalu, a-t-il lancé. Monsieur Chakwera, leader du parti du Congrès du Malawi, avait échoué de justesse à la présidentielle en mai 2019. Seulement 159 000 voix le séparaient du vainqueur Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014. Lundi, la Cour constitutionnelle lui a donné raison en ordonnant un nouveau scrutin d'ici 5 mois. Seuls 23% des procès-verbaux ont été vérifiés, a déclaré la Cour, qui a aussi dénoncé l'utilisation injustifiable de liquides correcteurs blancs pour falsifier des votes. Lazarus Chakwera a pris la parole devant au moins 10 000 de ses supporters descendus mardi dans les rues de la capitale, Lilongwe, pour fêter leur victoire judiciaire. Le président Mutharika, qui disposait de 6 semaines pour faire appel, a décidé de le faire. Son porte-parole a déclaré que la décision de la Cour constituait une erreur judiciaire et une attaque contre les fondations de la démocratie de notre pays. Parmi les partisans du pouvoir, la pilule était difficile à avaler, mais le calme a prévalu mardi dans le pays.
Et l'épidémie de coronavirus a fait 490 morts en Chine depuis qu'elle s'y est déclarée, ont indiqué aujourd'hui les autorités sanitaires chinoises au lendemain de l'annonce d'un second cas mortel hors de Chine continentale à Hong Kong qui alimente les craintes pour la croissance mondiale. Dans un communiqué, la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré que près de 24 324 cas ont été recensés dans le pays selon le bilan arrêté au 4 février au soir, soit 3 887 supplémentaires par rapport à la veille. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal. Bon après-midi à tous sur les ondes de la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.